Chapitre 11. La croix de Lorraine. D'un coup, pour ainsi dire sans transition, Lupin, lorsque le repas fut fini, recouvra toute sa maîtrise et toute son autorité. L'heure n'était plus aux plaisanteries et il ne devait plus céder à ce besoin de surprendre les gens par des coups de théâtre et des tours de magie. Puisqu'il avait découvert le bouchon de cristal dans la cachette prévue par lui en toute certitude, puisqu'il possédait la liste des 27, il s'agissait maintenant de jouer la fin de la partie sans retard. Jeu d'enfant, certes, et ce qui restait à faire n'offrait aucune difficulté. Encore fallait-il apporter à ces actes définitifs de la promptitude, de la décision et une clairvoyance infaillible. La moindre faute était irrémédiable. Lupin le savait, mais son esprit, si étrangement lucide, avait examiné toutes les hypothèses. Et ce n'était plus que des gestes et des mots mûrement préparés qu'il allait exécuter et prononcer. Gaudiard, le commissionnaire attend boulevard Gambetta avec sa charrette et la malle que nous avons achetée. Amène-le ici et fais monter la malle. Si on te demande quelque chose à l'hôtel, tu diras que c'est pour la dame qui habite au 130. Puis s'adressant à son autre compagnon, « Le balut, retourne au garage et prends livraison de la limousine. Le prix est convenu, 10 000 francs. Tu achèteras une casquette et une lévite de chauffeur et tu amèneras l'auto devant la porte. »« L'argent, patron ?» Lupin saisit un portefeuille qu'on avait retiré du veston de Daubrec et trouva une liasse énorme de billets de banque qu'il en détacha 10. Voici 10 000 francs. Il paraît que notre ami a gagné la forte somme au cercle. Allez, va, le balut. Les deux hommes s'en allèrent par la chambre de Clarisse. Lupin profita d'un moment où Clarisse Margy ne le regardait pas pour empocher le portefeuille, et cela avec une satisfaction profonde. Oh, l'affaire ne sera pas trop mauvaise, se dit-il. Tout frais payé, j'y retrouverai largement mon compte. Et c'est pas fini. S'adressant à Clarisse Margy, il lui demanda « Vous avez une valise ?»« Oui, une valise que j'ai achetée en arrivant à Nice, ainsi qu'un peu de linge et des objets de toilette, puisque j'ai quitté Paris à l'improviste. » « Préparez tout cela, puis descendez au bureau. Dites que vous attendez votre mal, qu'un commissionnaire la porte de la consigne, et que vous êtes obligé de la défaire et de la refaire dans votre chambre. Puis annoncez votre départ. » Resté seul, Lupin examina Daubrec attentivement, puis il fouilla dans toutes les poches et fit main basse sur tout ce qui lui parut présenter un intérêt quelconque. Grognard revint le premier. La malle, une grande malle d'osier recouverte en moleskine noire, fut déposé dans la chambre de Clarisse. Aidé de Clarisse et de Grognard, Lupin transporta Daubrec et le plaça dans cette malle, bien assis, mais la tête courbée, pour qu'il fût possible de rabattre le couvercle. « Oh, je ne dis pas que ce soit aussi confortable qu'une couchette de wagon-lit, mon cher député, » observa Lupin. « Mais ça vaut tout de même mieux qu'un cercueil, au moins, il y a de l'air pour respirer. » 3 petits trous sur chaque face, plein toit. » Puis débouchant d'un flacon. Encore un peu de chloroforme, t'as l'air d'adorer ça. Il imbiba de nouveau le masque, tandis que sur ses ordres, Clarisse et Grognard calaient le député avec du linge, des couvertures de voyage et des coussins qu'on avait eu la précaution d'entasser dans la malle. Parfait, dit Lupin. Voilà un colis qui ferait le tour du monde. Allez, fermons et bouclons. Le balut arrivait en chauffeur. L'auto est en bas, patron. Bien, dit-il. Mais à vous de descendre la malle, il serait dangereux de la confier au garçon d'hôtel. Mais si nous rencontrons... Eh bien quoi, le balut, n'es-tu pas un chauffeur? Tu portes la malle de ta patronne, ici présente, la dame du 130, qui descend également. Qui monte dans son auto et qui m'attend 200 mètres plus loin. Grognard, tu l'aideras à charger. Ah, auparavant, ferme la porte de communication. Lupin passa dans l'autre chambre, ferma l'autre battant, mit le verrou, puis sortit et prit l'ascenseur. Au bureau, il prévint. « Oh, Monsieur Daubrecq a été appelé en hâte à Monte-Carlo. Il me charge de vous avertir qu'il ne rentrera qu'après-demain. Qu'on lui garde sa chambre. D'ailleurs, toutes ses affaires y sont. Voici la clé. » Il s'en alla tranquillement et rejoignit l'automobile où il trouva Clarisse qui se lamentait. « Mais jamais nous ne serons à Paris demain matin. C'est de la folie, la moindre panne. » Aussi, dit-il, vous et moi, nous prenons le train, c'est plus sûr. L'ayant fait monter dans un fiacre, il donna ses dernières instructions aux deux hommes. Bon, 50 km à l'heure en moyenne, n'est-ce pas? Vous conduirez et vous vous reposerez chacun à votre tour. De la sorte, il vous est possible d'être à Paris demain soir, lundi, vers les 6 ou 7 heures du soir. Mais ne forcez pas l'allure. Si je garde Daubrecq, c'est pas parce que j'ai besoin de lui pour mes projets. C'est comme otage. Et puis, par précaution, je tiens à l'avoir sous la main pendant quelques jours. Donc soignez-le, le cher homme. Quelques gouttes de chloroforme, toutes les 3 ou 4 heures. C'est sa passion. En route le balut. Et toi, Daubrecq, fais pas trop de billes là-haut. Le toit est solide. Si tu as mal au cœur, te gêne pas. Allez, en route le balut. Il regarda l'auto qui s'éloignait, puis se fit conduire dans un bureau de poste où il rédigea une dépêche ainsi conçue. Monsieur Praville, préfecture de police, Paris. Individu retrouvé, vous apporterez le document demain matin 11 h. Communication urgente. Clarisse. À 2h30, Clarisse et Lupin arrivaient en gare. « Pourvu qu'il y ait de la place, » dit Clarisse, qui s'alarmait de tout. « De la place, mais nos sleepings sont retenus. »« Mais par qui ?»« Par Jacob, par Daubrecq. »« Comment ?»« Dame, au bureau de l'hôtel, on m'a remis une lettre » qu'un express venait d'apporter pour Daubrecq. C'étaient les 2 sleepings que Jacob lui envoyait. En outre, j'ai sa carte de député. Nous voyagerons donc sous le nom de monsieur et madame Daubrecq, et l'on aura pour nous tous les égards qui sont dus à notre rang. Vous voyez, chère madame, tout est prévu. Le trajet, cette fois, sembla court à Lupin. Interrogée par lui, Clarisse raconta tout ce qu'elle avait fait durant ces derniers jours. Lui-même expliqua le miracle de son irruption dans la chambre de Daubrecq au moment où son adversaire le croyait en Italie. « Un miracle, non, dit-il. Non, mais cependant, il y a eu en moi, quand je quittais San Remo pour Gênes, un phénomène d'ordre spécial, une sorte d'intuition mystérieuse qui me poussa d'abord à sauter du train, et le balu m'en empêcha, et ensuite à me précipiter vers la portière, à baisser la glace, et à suivre des yeux le portier de l'ambassadeur Pallas, qui m'avait transmis votre message. Or, à 7 minutes même, le dit portier se frottait les mains d'un air tellement satisfait que sans autre motif, subitement, je compris tout. J'étais roulé. J'étais roulé par Daubrecq, comme vous l'étiez vous-même. Et des tas de petits faits me revinrent à l'esprit. Le plan de l'adversaire m'apparut tout entier. Oh, 1 minute de plus, le désastre était irrémédiable. J'eus, je l'avoue, quelques instants de véritable désespoir à l'idée que je n'allais pas pouvoir réparer toutes les erreurs commises. Cela dépendait simplement de l'horaire des trains, qui me permettrait ou ne me permettrait pas de retrouver en gare de San Remo l'émissaire de Daubrecq. Ah, cette fois enfin le hasard nous fut favorable. N'étions pas descendus à la première station qu'un train passa pour la France. Et quand nous arrivâmes à San Remo, L'homme était là. J'avais bien deviné. Il n'avait plus sa casquette ni sa redingote de portier, mais un chapeau et un veston. Il monta dans un compartiment de seconde classe. Désormais, la victoire ne faisait plus de doute. « Mais comment ?» dit Clarisse, qui, malgré les pensées qui l'obsédaient, s'intéressait au récit de Lupin. « Ah, comment je suis revenu jusqu'à vous, mon Dieu, en ne lâchant plus le sieur Jacob, tout en le laissant libre de ses actions, certain que j'étais qu'il rendrait compte de sa mission à Daubrecq. De fait, ce matin, après une nuit passée dans un petit hôtel de Nice, il rencontra Daubrecq sur la promenade des Anglais. Ils causèrent assez longtemps, je les suis. Daubrecq regagne son hôtel, installe Jacob dans un des couloirs du rez-de-chaussée, en face du bureau téléphonique, et prend l'ascenseur. 10 minutes plus tard, je savais le numéro de sa chambre, et je savais qu'une dame habitait depuis la veille la chambre voisine, le numéro 130. « Bien, je crois que nous y sommes, » dit Jagognard à le balu. « Je frappe légèrement à votre porte, aucune réponse, et la porte était fermée à clé. « Eh bien, » dit Clarisse, « eh bien, nous l'avons ouverte. Pensez-vous donc qu'il n'y ait qu'une seule clé au monde qui puisse faire fonctionner une serrure ? J'entre donc dans votre chambre, personne. Mais la porte de communication est entrebâillée. Je me glisse par là. Dès lors, un simple rideau me séparait de vous, de Daubrecq, et du paquet de tabac que j'apercevais sur le marbre de la cheminée. Vous connaissiez donc la cachette ? Une perquisition dans le cabinet de travail de Daubrecq à Paris m'avait fait constater la disparition de ce paquet de tabac. En outre, je savais par certains aveux arrachés à Daubrecq dans la tour des deux amants que le mot « mari » détenait la clé de l'énigme. Or, ce n'était que le début d'un autre mot que je devinais, pour ainsi dire, au moment même où me frappait l'absence du paquet de tabac. Quel mot ? Maryland, du tabac Maryland, le seul que fume Daubrecq. Et Lupin se mit à rire. Et ça, c'est bête, hein ? Et en même temps, comme c'est malin de la part de Daubrecq, on cherche partout, on fouille partout. N'ai-je pas dévissé les douilles de cuivre des ampoules électriques pour voir si elles n'abritaient pas un bouchon de cristal ? Mais comment aurais-je eu l'idée, comment un être quelconque, si perspicace qu'il fût, aurait-il eu l'idée de déchirer la bande d'un paquet de Maryland ? Bande apposée, collée, cachetée, timbrée, datée par l'État, sous le contrôle des contributions indirectes. Pensez donc, l'État complice d'une telle infamie, l'administration des contributions indirectes se prétend à de pareilles manœuvres. Non, mille fois non. La régie peut avoir des torts, elle peut fabriquer des allumettes qui ne flambent pas, et des cigarettes où il y a des bûches de Noël. Mais de là à supposer qu'elle est de mèche avec Daubrecq, pour soustraire la liste des 27 à la curiosité légitime du gouvernement et aux entreprises d'Arsène Lupin, il y a un précipice. Remarquez qu'il suffisait, pour introduire là-dedans le bouchon de cristal, de peser un peu sur la bande, comme l'a fait Daubrecq, de la rendre plus lâche, de l'enlever, de déplier le papier jaune, d'écarter le tabac, puis de remettre tout en ordre. Remarquez de même qu'il nous eût suffi à Paris de prendre ce paquet dans nos mains et de l'examiner pour découvrir la cachette. N'importe, le paquet en lui-même, le bloc de Maryland confectionné, approuvé par l'État et par l'administration des contributions indirectes, cela c'est des choses sacrées, intangibles, insoupçonnables. Et personne ne l'ouvrit. Et Lupin conclut. C'est ainsi que ce démon de Daubrecq laisse traîner depuis des mois sur sa table, parmi ses pipes et parmi d'autres paquets de tabac, non éventrés, ce paquet de tabac intact. Et nulle puissance au monde n'eût pu susciter, sans aucun esprit, l'idée même confuse d'interroger ce petit cube inoffensif. Je vous ferai observer en outre. » Et Lupin poursuivit assez longtemps ses considérations relatives au paquet de Maryland et au bouchon de cristal, l'ingéniosité et la clairvoyance de son adversaire l'intéressant d'autant plus qu'il avait fini par avoir raison de lui. Mais Clarisse, à qui ces questions importaient beaucoup moins que le souci des actes qu'il fallait accomplir pour sauver son fils, l'écoutait à peine, tout entière à ses pensées. « Êtes-vous sûr ? » répétait-elle sans cesse. « Êtes-vous sûr que vous allez réussir ? » ?»« Mais absolument sûr !»« Mais Prinville n'est pas à Paris. » « Oh, s'il n'y est pas, c'est qu'il est au Havre. J'ai lu cela dans un journal hier. En tout cas, notre dépêche le rappellera immédiatement à Paris. » « Et vous croyez qu'il aura assez d'influence ?»« Pour obtenir personnellement la grâce de Vaucheray et de Gibert, non, non. Sans quoi nous l'aurions déjà fait marcher. Mais il aura assez d'intelligence pour comprendre la valeur de ce que nous lui apportons et... pour agir sans une minute de retard. Mais précisément, vous ne vous trompez pas sur cette valeur ? Et Daubrecq se trompait-il donc ? Est-ce que Daubrecq n'était pas mieux placé que personne pour savoir la toute-puissance de ce papier ? N'en a-t-il pas eu 20 preuves plus décisives les unes que les autres ? Songez à tout ce qu'il a fait par la seule raison qu'on le savait possesseur de la liste. On le savait, voilà tout. Il ne se servait pas de cette liste, mais il l'avait. Et l'ayant, il tua votre mari. Il échafauda sa fortune sur la ruine et le déshonneur des 27. Hier encore, un des plus intrépides d'Albufex se coupait la gorge dans sa prison. Non, non, soyez tranquille. Contre la remise de cette liste, nous pourrions demander ce que nous voudrions. Or, nous demandons quoi ? Presque rien, moins que rien. La grâce d'un enfant de 20 ans. C'est-à-dire qu'on nous prendra pour des imbéciles. Comment nous avons entre les mains ? Il se tut. Clarisse, épuisée par tant d'émotions, s'endormait en face de lui. À 8 heures du matin, ils arrivaient à Paris. Deux télégrammes attendaient Lupin à son domicile de la place Clichy. L'un de Lebalu, envoyé d'Avignon la veille, annonçait que tout allait pour le mieux et que l'on espérait bien être exact au rendez-vous du soir. L'autre était de Prinville, daté du Havre et adressé à Clarisse. Impossible revenir demain matin lundi. Venez à mon bureau, 5 heures, compte absolument sur vous. 5 heures, dit Clarisse, comme c'est tard. Mais c'est une heure excellente, affirma Lupin. Mais cependant, si... Ah, si l'exécution doit avoir lieu demain matin, c'est ce que vous voulez dire. Mais n'ayez donc pas peur des mots, puisque l'exécution n'aura pas lieu. Les journaux, mais les journaux, vous ne les avez pas lus, et je vous défends de les lire. Tout ce qu'ils peuvent annoncer ne signifie rien. Une seule chose importe, notre entrevue avec Prinville, d'ailleurs. Il tira d'une armoire un petit flacon, et posant sa main sur l'épaule de Clarisse, il lui dit « Étendez-vous sur ce canapé et buvez quelques gorgées de cette potion. » « Qu'est-ce que c'est ? De quoi vous faire dormir quelques heures et oublier ? C'est toujours cela de moins. » « Non, non, protesta Clarisse, je ne veux pas. Gilbert ne dort pas, lui, il n'oublie pas. »« Buvez !» dit Lupin en insistant avec douceur. Elle céda tout d'un coup par lâcheté, par excès de souffrance, et docilement s'étendit sur le canapé et ferma les yeux. Au bout de quelques minutes, elle dormait. Lupin sonna son domestique. « Les journaux, vite, tu les as achetés ? Voici pas trop. » Lucien déplia l'un d'eux et aussitôt il vit ses lignes. « Les complices d'Arsène Lupin. » Nous savons de sources certaines que les complices d'Arsène Lupin Gilbert et Vaucheray sont exécutés demain matin mardi. Monsieur Debler a visité les bois de justice, tout est prêt. Il releva la tête avec une expression de défi. Les complices d'Arsène Lupin, l'exécution des complices d'Arsène Lupin. Oh, quel beau spectacle! Et comme il y aurait foule pour voir cela! Désolé, messieurs, mais le rideau ne se lèvera pas. Relâche par ordre supérieur de l'autorité. Et l'autorité, c'est moi! Il se frappa violemment la poitrine avec un geste d'orgueil. L'autorité, c'est moi! À midi, Lupin reçut une dépêche que le Balu lui avait expédiée de Lyon. Tout va bien, un colis arrivera sans avarie. À 3 heures, Clarisse se réveilla. Sa première parole fut celle-ci. « C'est pour demain ?» Il ne répondit pas. Mais elle le vit si calme, si souriant, qu'elle se sentit pénétrée d'une paix immense et qu'elle eut l'impression que tout était fini, dénoué, arrangé, selon la volonté de son compagnon. À 4h10, ils partirent. Le secrétaire de Prasville, prévenu téléphoniquement par son chef, les introduisit dans le bureau et les pria d'attendre. Il était 5h moins le quart. À 5h précises, Prasville entra en courant et tout de suite il s'écria « Vous avez la liste ?»« Oui. Donnez. » Il tendait la main. Clarisse, qui s'était levée, ne broncha pas. Prasville la regarda un moment, hésita, puis s'assit. Il comprenait. En poursuivant Daubrec, Clarisse Mergy n'avait pas agi simplement par haine et par désir de vengeance. Un autre motif la poussait. La remise du papier ne s'effectuerait que sous certaines conditions. « Assieds-vous, je vous prie, » dit-il, montrant ainsi qu'il acceptait le débat. Prasville était un homme maigre, de visage osseux, auquel un clignement d'yeux perpétuel des yeux et une certaine déformation de la bouche donnaient une expression de fausseté et d'inquiétude. On le supportait mal à la préfecture, où il fallait à tout instant réparer ses gaffes et ses maladresses. Mais il était de ces êtres peu estimés, que l'on emploie pour des besognes spéciales et que l'on congédie ensuite avec soulagement. Cependant, Clarisse avait repris sa place. Comme elle se taisait, Prasville prononça. « Parlez, cher ami, et parlez en toute franchise. Je n'ai aucun scrupule à déclarer que nous serions désireux d'avoir ce papier. » « Si ce n'est qu'un désir, » observa Clarisse, à qui Lupin avait soufflé son rôle dans les moindres détails, « si ce n'est qu'un désir, j'ai peur que nous ne puissions nous accorder. » Prasville sourit. « Oh, ce désir, évidemment, nous conduirait à certains sacrifices. »« À tous les sacrifices ?» rectifia Madame Mergy. « À tous les sacrifices, oui, pourvu, bien entendu, que nous restions dans la limite des désirs acceptables. »« Et même si nous sortions de ces limites ?» prononça Clarisse, inflexible. Prasville s'impatienta. « Enfin, voyons, de quoi s'agit-il? Expliquez-vous. »« Pardonnez-moi, cher ami, je tenais avant tout à marquer l'importance considérable que vous attachez à ce papier et en vue de la transaction immédiate que nous allons conclure à bien spécifier, enfin, comment dirais-je, la valeur de mon apport. Cette valeur n'ayant pas de limite, je le répète, tout doit être échangé contre une valeur illimitée. » « C'est entendu !» articula Prasville avec irritation. Il n'est donc pas utile que je fasse un historique complet de l'affaire et que j'énumère d'une part les désastres que la possession de ce papier vous aurait permis d'éviter et d'autre part les avantages incalculables que vous pourrez tirer de cette possession. Prasville eut besoin d'un effort pour se contenir et pour répondre à un ton à peu près poli. « Oui, j'admets tout cela, est-ce fini ? Je vous demande pardon, mais nous ne saurions nous expliquer avec trop d'honnêteté. Or, il est un point qu'il nous faut encore éclaircir. Êtes-vous en mesure de traiter personnellement? Comment cela? Je vous demande non pas évidemment si vous avez le pouvoir de régler cette affaire sur l'heure, mais si vous représentez en face de moi la pensée de ceux qui connaissent l'affaire et qui ont qualité pour la régler. Oui, affirma Braville avec force. Donc, une heure après que je vous aurai communiqué mes conditions, je pourrai avoir votre réponse. Oui. Cette réponse sera celle du gouvernement? Oui. Clarisse se pencha et d'une voix plus sourde. Cette réponse sera celle de l'Élysée? Braville parut surpris. Il réfléchit un instant, puis il prononça « oui ». Alors Clarisse conclut. « Il me reste à vous demander votre parole d'honneur, que, si incompréhensible que vous paraissent mes conditions, vous n'exigerez pas que je vous en révèle le motif. Elles sont ce qu'elles sont. Votre réponse doit être un oui ou un non. Je vous donne ma parole d'honneur, scanda Braville. Clarisse eut un moment d'émotion qui la fit plus pâle encore qu'elle n'était. Puis, se maîtrisant, les yeux fixés sur les yeux de Braville, elle dit « La liste des 27 sera remise contre la grâce de Gilbert et de Vaucheray. »« Hein, quoi ?» Braville s'était dressé, l'air absolument ahuri. La grâce de Gilbert et de Vaucheray, les complices d'Arsène Lupin. Oui, dit-elle. Les assassins de la Villa Marie-Thérèse qui doivent mourir demain. Oui, cela même, dit-elle, la voix haute. Je demande, j'exige leur grâce. Mais c'est insensé, pourquoi? Ah, je vous rappelle, Braville, que vous m'avez donné votre parole. Oui, en effet, mais la chose est tellement imprévue. Pourquoi? Mais pour toutes sortes de raisons. Lesquelles? Enfin, réfléchissez. Gilbert et Vaucheray ont été condamnés à mort. On les enverra au bagne, voilà tout. Impossible. L'affaire a fait un bruit énorme. Ce sont des complices d'Arsène Lupin. Le verdict est connu du monde entier. Eh bien, nous ne pouvons pas, non, nous ne pouvons pas nous insurger contre les arrêts de la justice. On ne vous demande pas cela. On vous demande une commutation de la peine par le moyen de la grâce. La grâce est une chose légale. La commission des grâces est prononcée. Soit, mais il reste le président de la République. Il a refusé. Mais qu'il revienne sur son refus. Impossible. Pourquoi? Il n'y a pas de prétexte. Mais il n'est pas besoin de prétexte. Le droit de grâce est absolu. Il s'exerce sans contrôle, sans motif, sans prétexte, sans explication. C'est une prérogative royale. Que le président de la République en use selon son bon plaisir, ou plutôt selon sa conscience, ou bien des intérêts de l'État. Mais il est trop tard, tout est prêt, l'exécution doit avoir lieu dans quelques heures. Une heure vous suffit pour avoir la réponse, vous venez de nous le dire. Mais c'est de la folie, sacrebleu, vos exigences se heurtent à des obstacles infranchissables. Je vous le répète, c'est impossible, matériellement impossible. Alors c'est non. Non, mille fois non. Alors en ce cas, nous n'avons plus qu'à nous retirer. Elle esquissa un mouvement vers la porte. Monsieur Nicole la suivit. D'un bond, Braville leur barra la route. Où allez-vous? Mon Dieu, cher ami, il me semble que notre conversation est terminée. puisque vous estimez, puisque vous êtes sûr que le président de la République estimera que cette femme de liste des 27 ne vaut pas. Restez, dit Braville. Il ferma d'un tour de clé la porte de sortie et se mit à marcher de long en large, les mains au dos et la tête inclinée. Et Lupin, qui n'avait pas soufflé mot durant toute la scène, et s'était par prudence confiné dans un rôle effacé, Lupin se disait « Mais que d'histoire, mais que de manière pour arriver à l'inévitable dénouement. Comment le sieur Braville, lequel n'est pas un aigle, mais lequel n'est pas non plus une buse, renoncerait-il à se venger de son ennemi mortel ? Tiens, qu'est-ce que je disais ? L'idée de culbuter Daubrec au fond de l'abîme le fait sourire. Allons, la partie est gagnée. » À ce moment, Braville ouvrait une petite porte intérieure qui donnait sur le bureau de son secrétaire particulier. Il prescrivit à haute voix. « Monsieur Lartigue, téléphonez à l'Élysée et dites que je sollicite une audience pour une communication de la plus haute gravité. » Fermant la porte, il revint vers Clarisse et lui dit « En tout cas, mon intervention se borne à soumettre votre proposition. »« Oh, soumise, elle est acceptée. » Il y eut un long silence. Le visage de Clarisse exprimait une joie si profonde que Braville en fut frappé et qu'il la regarda avec une curiosité attentive. Mais pour quelle cause mystérieuse Clarisse voulait-elle le salut de Gilbert et de Vaucheray ? Quel lien inexplicable l'attachait à ces deux hommes ? Quel drame avait pu mêler ces trois existences, et sans doute aussi à ces trois-là, celle de Daubrec ? « Va, mon bonhomme, pensait Lupin, creuse-toi la cervelle, tu trouveras pas. Ah, si nous n'avions exigé que la grâce de Gilbert, comme le désirait Clarisse, peut-être aurais-tu découvert le poteau rose. Mais Vaucheray, cette brute de Vaucheray, vraiment il ne peut y avoir le moindre rapport entre Madame Mergy et lui. Ah, ah, bigre, c'est mon tour maintenant. On m'observe. Le monologue intérieur roule sur moi. Et ce monsieur Nicole, ce petit pion de province, qu'est-ce que ça peut bien être ? Pourquoi s'est-il dévoué corps et âme à Clarisse Mergy ? Quelle est la véritable personnalité de cet intrus ? Oh, j'ai eu tort de ne pas m'enquérir. Oh, il faudrait que je voie cela, que je dénoue les cordons de ce masque. Car enfin, il n'est pas naturel qu'on se donne tant de mal pour accomplir un acte où l'on n'est pas intéressé directement. Pourquoi veut-il lui aussi sauver Gilbert et Vaucheray ? Pourquoi ? Lupin détourna légèrement la tête. Aïe, aïe, une idée traverse ce crâne de fonctionnaire. Une idée confuse qui ne s'exprime point. Fichtre, il ne faudrait pas qu'il devinât M. Lupin sous M. Nicole à cette complication. Mais une diversion se produisit. Le secrétaire de Braville vint annoncer que l'audience aurait lieu dans une heure. « C'est bien, je vous remercie, dit Braville, laissez-nous. » Et reprenant l'entretien sans plus de détour en homme qui veut mener les choses rondement, il déclara « Ben, je crois que nous pourrons nous arranger. Mais tout d'abord, et pour bien remplir la mission dont je me charge, il me faut des renseignements plus exacts, une documentation plus complète. Où se trouvait le papier ? Dans le bouchon de cristal, comme nous le supposions, répondit Madame Mergy. Et ce bouchon de cristal ? Dans un objet que Daubrec est venu chercher il y a quelques jours sur la table de son bureau, en sa maison du square Lamartine. Objet que, moi, je lui ai repris hier dimanche. Et cet objet n'est autre qu'un paquet de tabac Maryland, qui traînait sur cette table. Braville fut pétrifié. Naïvement, il murmura, « Oh, si j'avais su, mais j'y ai touché 10 fois, ce paquet de Maryland, est-ce bête ? Qu'importe, dit Clarisse. L'essentiel est que la découverte soit effectuée. Pravil fit une moue qui signifiait que la découverte lui était beaucoup plus agréable s'il avait été effectuée par lui. Puis il demanda « De sorte que cette liste, vous l'avez ?»«
Oui. »«
Ici ?»«
Oui. »«
Montrez-la-moi. » Et comme Clarisse hésitait, il lui dit « Oh non, je vous en prie, ne craignez rien. Cette liste vous appartient, je vous la rendrai, mais vous devez comprendre que je ne puis faire la démarche dont il s'agit sans une certitude. » Clarisse consulta M. Nicole d'un regard que Prinville surprit, puis elle déclara « Voici. » Il saisit la feuille avec un certain trouble, l'examina et presque aussitôt il dit « Oui, oui, l'écriture du caissier, je la reconnais. Et la signature du président de la compagnie, la signature rouge. Oh, d'ailleurs, j'ai d'autres preuves. Par exemple, le morceau déchiré qui complétait le coin gauche supérieur de cette feuille. » Il ouvrit son coffre-fort et, dans une cassette spéciale, il saisit un tout petit morceau de papier qu'il approcha du coin gauche supérieur. C'est bien cela, les deux coins déchirés se suivent exactement. La preuve est irrécusable. Il n'y a plus qu'à vérifier la nature même de ce papier pelure. Clarisse rayonnait de joie. On n'aurait jamais cru que le supplice le plus effroyable ne déchirait depuis des semaines et des semaines, et qu'elle en était encore toute saignante et pantelante. Tandis que Braville appliquait la feuille contre le carreau d'une fenêtre, elle dit à Lupin « Exigez que Gilbert soit prévenu dès ce soir. Il doit être si atrocement malheureux. » Oui, dit Lupin. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre chez son avocat et l'aviser. Elle reprit. Et puis je veux voir Gilbert dès demain. Prinville pensera ce qu'il voudra. Oui, c'est entendu, mais il faut d'abord qu'il obtienne gain de cause à l'Élysée.
Il ne peut pas y avoir de difficulté, n'est-ce pas ?
Non, vous voyez bien qu'il a cédé tout de suite. Prinville continuait ses investigations à l'aide d'une loupe, puis en comparant la feuille au petit morceau de papier déchiré. Ensuite, il la replaça contre la fenêtre. Ensuite, il sortit de la cassette d'autres feuilles de papier à lettres et examina l'une d'elles en transparence. Voilà qui est fait, dit-il, ma conviction est établie. Vous me pardonnerez, cher ami, c'était un travail fort délicat. J'ai passé par plusieurs phases, car enfin, je me méfiais, et non sans raison. Que voulez-vous dire ? Murmura Clarisse. Une seconde, avant tout, il faut que je donne un ordre. Il appela son secrétaire. Téléphone immédiatement à la présidence. Je vous prie que je m'excuse, mais que pour des motifs dont je rendrai compte ultérieurement, l'audience est devenue inutile. Il referma la porte et revint vers son bureau. Clarisse et Lupin, debout, suffoqués, le regardaient avec stupeur, sans comprendre ce revirement subit. Était-il fou ? Était-ce une manœuvre de sa part, un manque de parole ? Et refusait-il maintenant qu'il possédait la liste de tenir ses engagements ? Il la tendit à Clarisse. Vous pouvez la reprendre.
La reprendre ?
Oui, et la renvoyer à Daubrecq.
À Daubrecq ?
Oui, à moins que vous ne préfériez la brûler.
Mais qu'est-ce que vous dites ?
Ben, je dis qu'à votre place, je la brûlerai.
Mais pourquoi dites-vous cela ? C'est absurde.
Oh, c'est au contraire fort raisonnable.
Mais pourquoi ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Ah, je vais vous l'expliquer. La liste des 27, et cela nous en avons la preuve irrécusable. La liste fut écrite sur une feuille de papier à lettres qui appartenait au président de la Société du Canal, et dont voici dans cette cassette quelques échantillons. Or, tous ces échantillons portent comme marque de fabrique une petite croix de Lorraine presque invisible, mais que vous pouvez voir en transparence dans l'épaisseur du papier. La feuille que vous m'apportez n'offre pas cette croix de Lorraine. »
Lupin sentit qu'un tremblement nerveux l'agitait des pieds à la tête, et il n'osait tourner les yeux vers Clarisse, dont il devinait l'épouvantable détresse. Il l'entendit qui balbutiait.
« Il faudrait donc supposer que Daubrecq a été roulé ?»«
Jamais de la vie !» s'exclama Braville. « C'est vous qui êtes roulé, ma pauvre amie. Daubrecq a la véritable liste, la liste qu'il a volée dans le coffre-fort du Morimont.
Mais celle-ci...
celle-ci est fausse.
Fausse?
Péremptoirement fausse. C'est une ruse admirable de Daubrecq. Halluciné par le bouchon de cristal qui faisait miroiter à vos yeux, vous ne cherchiez que ce bouchon de cristal où il avait enfermé n'importe quoi, ce chiffon de papier, tandis que lui, bien paisible, il conservait.
Braville s'interrompit. Clarisse avançait à petits pas, toute rigide, l'air d'une automate. Elle articula.
Alors?
Alors quoi, cher ami?
Vous refusez?
Certes, je suis dans l'obligation absolue.
Vous refusez de faire cette démarche?
Voyons, cette démarche est-elle possible? Je ne puis pourtant pas sur la foi d'un document sans valeur.
Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Et demain matin, dans quelques heures, Gilbert...
Elle était effrayante de pâleur, la figure toute creusée, pareille à une figure d'agonie. Ses yeux s'ouvraient démesurément et ses mâchoires claquaient. Lupin, redoutant les mots inutiles et dangereux qu'elle allait prononcer, la saisit aux épaules et tenta de l'entraîner. Mais elle le repoussa avec une force indomptable, fit encore deux ou trois pas, chancela comme si elle eût été sur le point de tomber, et tout à coup, secouée d'énergie et de désespoir, empoigna Braville et proféra.
« Vous irez là-bas, vous irez tout de suite, il faut sauver Gilbert. »
« Je vous en prie, cher ami, calmez-vous. »
Elle eut un rire strident. « Me calmer, alors que Gilbert, demain matin, oh non, j'ai peur, c'est horrible. Mais courez là-bas, misérable, obtenez sa grâce. Vous comprenez donc pas, Gilbert, Gilbert. Mais c'est mon fils, mon fils, mon fils. »
Braville poussa un cri. La lame d'un couteau brillait dans la main de Clarisse et elle levait le bras pour se frapper elle-même. Mais le geste ne fut pas achevé. M. Nicole avait saisi le bras au passage et, désarmant Clarisse, la réduisant à l'immobilité, il prononçait d'une voix ardente.
« Mais c'est fou ce que vous faites, puisque je vous ai juré de la sauver. Vivez donc pour lui. Gilbert ne mourra pas. » Est-il possible qu'il meure alors que je vous ai juré?
Oh, Gilbert, mon fils, gémissait Clarisse.
Il étreignit violemment, la renversa contre lui et lui appliqua la main sur la bouche.
Assez, taisez-vous. Je vous supplie de vous taire. Gilbert ne mourra pas.
Avec une autorité irrésistible, il l'entraîna comme une enfant domptée, soudain obéissante. Mais au moment d'ouvrir la porte, il se retourna vers Braville.
« Attendez-moi, monsieur, commanda-t-il d'un ton impérieux. Si vous tenez à cette liste des 27, à la véritable liste, attendez-moi. Dans 1 heure, dans 2 heures au plus, je serai ici et nous causerons. »
Puis brusquement à Clarisse...
« Et vous, madame, un peu de courage, encore, je vous pardonne. Je vous l'ordonne, au nom de Gilbert. »
Par les couloirs, par les escaliers, tenant Clarisse sous le bras comme il eût tenu un mannequin, la soulevant, la portant presque, il s'en alla d'un pas saccadé. Une cour, et puis une autre cour, et puis la rue. Pendant ce temps, Prasville, surpris d'abord, étourdi par les événements, recouvrait peu à peu son sang-froid et réfléchissait. Il réfléchissait à l'attitude de ce monsieur Nicole, simple comparse d'abord, qui jouait auprès de Clarisse le rôle de ses conseillers auxquels on se raccroche dans les crises de la vie, et qui subitement, sortant de sa torpeur, apparaissait en pleine clarté, résolu, autoritaire, plein de fougue, débordant d'audace, prêt à renverser tous les obstacles que le destin lui opposerait. Mais qui donc pouvait agir ainsi? Prasville tressaillit. La question ne s'était pas offerte à son esprit que la réponse s'imposait avec une certitude absolue. Toutes les preuves surgissaient, toutes plus précises les unes que les autres, toutes plus irrécusables. Une seule chose embarrassait Prasville. Le visage de M. Nicole, son apparence, n'avait pas le plus petit rapport, si lointain fut-il, avec les photographies que Prasville connaissait de Lupin. C'était un homme entièrement nouveau, d'une autre taille, d'une autre corpulence, ayant une coupe de figure, une forme de bouche, une expression de regard, un teint des cheveux absolument différent de toutes les indications formulées sur le signalement de l'aventurier. Mais Prasville ne savait-il pas que toute la force de Lupin résidait précisément dans ce pouvoir prodigieux de transformation? Oh, il n'y avait pas de doute. En hâte, Prasville sortit de son bureau. Rencontrant un brigadier de la sûreté, il lui dit fébrilement « Ah, vous arrivez !»« Oui, monsieur le secrétaire général. »« Vous avez croisé un monsieur et une dame ?»« Oui, dans la cour, il y a quelques minutes. » Vous reconnaîtriez cet individu? Oui, je crois. Alors, pas une minute à perdre, brigadier. Prenez avec vous 6 inspecteurs. Rendez-vous place Clichy. Faites une enquête sur le sieur Nicole et surveillez la maison. Le sieur Nicole doit y rentrer. Et s'il n'y rentre pas, monsieur le secrétaire général? Arrêtez-le, voici un mandat. Et il revint dans son bureau, s'assit, et sur une feuille spéciale inscrivit un nom. Le brigadier parut ahuri. « Mais monsieur le secrétaire général m'a parlé d'un sieur Nicole. Eh bien, le mandat porte le nom d'Arsène Lupin. Arsène Lupin et le sieur Nicole ne sont qu'un seul et même personnage. »